La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Vous nous emmenez ce matin au Brésil à 5 jours du second tour de l'élection présidentielle qui semble désormais promise au candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro.
Et en croire les derniers sondages publiés par la presse brésilienne, Bolsonaro garde les faveurs de 57% des électeurs contre 43% pour Fernando Haddad, le candidat du Parti des Travailleurs qui a décidément bien du mal à fédérer l'union des forces démocratiques. La dernière illustration en date, c'est le ralliement dans la dernière ligne droite hier de l'ex-candidate écologiste Marina Silva, une voix progressiste très engagée dans la lutte contre la corruption. La sénatrice Silva a donc finalement annoncé qu'elle soutiendra Fernando Haddad, mais elle l'a fait avec tellement de réserve, nous dit le journal O Globo, que ça en devient presque gênant. Si elle votera Haddad, c'est clair, c'est parce que Jair Bolsonaro fait courir un risque immédiat pour le Brésil avec ses programmes de protection de l'environnement menacé et le respect des minorités et des droits civiques bafoués par Bolsonaro. Mais Marina Silva détaille aussi tous les griefs qu'elle garde contre le Parti des Travailleurs, accusé d'avoir construit un système basé sur le pouvoir pour le pouvoir, faisant peu de cas de la pluralité politique et incapable de reconnaître ses erreurs. Voilà donc un tout sauf Bolsonaro du bout des lèvres pour cette candidate qui, il faut tout de même le rappeler, hein, au-delà de son crédit dans les milieux intellectuels brésiliens, n'a récolté qu'1% des voix au premier tour. Ce n'est donc pas elle qui va faire gagner Haddad dimanche. Ce dernier, écrit l'Estado de São Paulo, lorgne bien plus du côté de Ciro Gomes, candidat du centre-gauche, 12,5% des voix au premier tour, qui n'a toujours pas lui donné de consigne de vote.
Et pendant ce temps, Camille, Jair Bolsonaro a un boulevard devant lui et du coup, il ne fait plus vraiment d'efforts pour adoucir son discours.
On en jugera par ses déclarations vidéo dimanche citées par la Veja. Il y promettait à ses électeurs d'accélérer le grand nettoyage du pays, des marginaux rouges, des hors-la-loi gauchistes qui ont trop longtemps accaparé le pouvoir et qu'il promet d'envoyer ou bien en prison ou bien en exil. Voilà pour la rhétorique haineuse de cette fin de campagne d'un Jair Bolsonaro qui a tout de même dû, nous dit la Folha de São Paulo, taper sur les doigts de son fils Eduardo, son plus proche lieutenant qui a choqué en menaçant d'envoyer ses troupes s'en prendre physiquement au juge du tribunal suprême fédéral si d'aventure ces derniers ne reconnaissaient pas la victoire de son père dimanche. Il a dénoncé au passage la dictature judiciaire que représente selon lui la plus haute instance du Brésil qu'il a dit vouloir tout bonnement supprimer. Alors c'est vrai, reconnaît la Folia, qu'en termes d'attaque radicale contre les institutions démocratiques, c'était un peu fort, du pain béni pour les opposants des Bolsonaro père et fils. Le père a donc publiquement tiré les oreilles de son fiston, dont il a reconnu l'erreur due selon lui à l'ignorance et à la fougue de la jeunesse, et de rappeler son attachement au cadre démocratique. Autant vous dire qu'il n'a pas convaincu beaucoup d'éditorialistes brésiliens.
Et puis au Mexique, plus de 7000 personnes venues de toute l'Amérique centrale avancent à pied vers la frontière américaine qu'ils espèrent atteindre et franchir la semaine prochaine, Camille.
La presse internationale les a surnommés la caravane des migrants. Et c'est vrai que leur nombre qui ne cesse d'augmenter, le caractère photogénique de cette longue marche et la détermination de ces familles qui la composent, lui donnent une surface médiatique inédite. Pourtant, le magazine Time nous rappelle que cette pratique de convoi collectif à travers le Mexique pour éviter la violence des gangs et les rafles de la police est devenue courante au fil des dernières années. Sauf que cette fois, nous sommes en pleine campagne des élections de mi-mandat aux États-Unis. Donald Trump utilise donc ces images pour dénoncer le laxisme des lois migratoires démocrates, le péril imminent pour la sécurité américaine auquel il promet d'opposer les gardes-frontières et l'armée si besoin. Trump assure aussi, nous dit Time, que parmi les flots de Honduriens et de Guatémaltèques se sont dissimulés des criminels et des migrants du Moyen-Orient. Mais El País, qui a dépêché une envoyée spéciale dans la caravane, n'a pas vraiment débusqué de tels profils. Seulement des familles pauvres, des enfants par centaines, une foule exténuée par les journées de marche ininterrompues sous un soleil sans faille. Alors bien sûr, lira-t-on dans le quotidien mexicain La Jornada, les autorités de Mexico ont assuré qu'elles ne procéderaient pas à des arrestations massives de marcheurs, qu'elles les incitaient plutôt à régulariser leur situation, à renoncer à l'Eldorado nord-américain. Il n'en reste pas moins, selon le journal, que le choix du Mexique de prôner la coopération avec l'administration américaine, d'accepter implicitement son discours anti-migrant, est une erreur politique majeure. La Jornada rappelle que l'immigration illégale aux États-Unis, quoi qu'en dise Donald Trump, est à son niveau le plus bas depuis 2000. Et loin de l'épouvantail criminel, voire terroriste, que brandit la Maison-Blanche, c'est bien l'aggravation de la pauvreté, de l'insécurité et des inégalités sociales qui poussent sur les routes des milliers de centra-américains. Il n'y a donc pas de crise migratoire, nous dit David Brooks, qui est éditorialiste au New York Times, mais qui signe cette tribune dans la Jornada. L'analyse est d'ailleurs la même pour Time, qui cite l'universitaire d'Arizona, Elizabeth Oglesby. Pas de crise frontalière, selon selon elle, juste un cortège de pauvres villageois qui cheminent au grand jour, sans rien cacher de leurs intentions, se présenter aux portes des États-Unis et faire valoir leurs droits en déposant des demandes d'asile. La vraie crise, elle surviendra, par contre, quand l'Amérique de Trump fera tout pour les priver de ce droit, en les menaçant, par exemple, de les séparer de leurs enfants s'ils persistent dans leur détermination.
Merci Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve sur le site de France Culture. Merci aussi d'avoir évoqué les parties du monde où il y a toute une série de mésaventures, de drames et de malheurs et qui n'appartiennent pas au Moyen-Orient.